France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
C'est un Tour de France différent des autres qui s'est achevé hier sur les Champs-Élysées à Paris par la victoire d'Egan Bernal. Différent parce que, de l'avis de tous les observateurs compétents et autres spécialistes avisés, la compétition a été peut-être plus ouverte, plus disputée que ces dernières années. D'ailleurs, les audiences de France Télévisions sont ressenties. 34 millions de téléspectateurs se sont branchés au moins une fois sur une retransmission d'après les Échos ce matin. Des audiences records dues notamment à la prestation des coureurs français, à la Philippe, Pinot, Bardet, mais aussi peut-être à ce suspense, à cette compétition qu'on croyait avoir perdue dans les années 90 et 2000. Qu'il soit dû à un recours moindre au dopage, comme on peut en avoir l'impression, ou plus largement au changement de statut des champions qui apparaissent plus faibles ou plus faillibles, cet attrait renouvelé pour le Tour de France nous donne l'occasion ce matin de prendre des nouvelles des super-héros et on verra au passage ce qu'ils disent de nous. Nous sommes au téléphone avec Isabelle Queval. Bonjour.
Bonjour.
Philosophe et enseignante-chercheuse à l'INSHEA, l'Institut National Supérieur de Formation et de Recherche pour l'Éducation des Jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés. Vous avez publié notamment « S'accomplir ou se dépasser, essai sur le sport contemporain » chez Gallimard. En studio avec nous, Antoine Vaillé, bonjour.
Bonjour.
Chroniqueur pour Le Monde, ancien entraîneur de l'équipe Festina. Vous êtes aujourd'hui professeur de PS et observateur avisé des pratiques du monde du cyclisme. La première question sera pour vous, Antoine Vaillé, sur le bilan que vous faites de ce Tour de France, d'après votre méthodologie bien connue maintenant, consistant à calculer la puissance développée par les coureurs. Est-ce qu'il a marqué, ce Tour de France 2019, la fin de ce que vous avez appelé le cyclisme à deux vitesses ?
Sur le cyclisme à deux vitesses, justement dans la chronique du Monde que je fais ce matin, je donne un petit peu une réponse à une question que tout le monde se pose. C'est peut-on gagner le Tour de France à l'eau ? Hein, je pense que c'est une question qui est très importante parce qu'au niveau du public, tout le monde se la pose, on me la pose tous les ans. Et donc voilà, je pense.
Et
que
la réponse alors ?
On avait un bon étalon avec Thibaut Pinot. Et ce que je dis, c'est que la grêle qui s'est abattue sur l'épreuve, c'est un petit peu ses larmes et puis un petit peu cette pirouette, c'est en fait, en quelque sorte, le synonyme d'absence de réponse à cette question, quoi. Parce qu'il a abandonné. C'est un garçon qui a.
Parce que Pinot était à l'eau, c'est ce que vous nous dites ce matin.
C'est-à-dire qu'il y a des coureurs maintenant que je connais bien et un contexte que je connais bien et comme vous le dites, des watts qu'on étudie depuis des décennies. Et Thibaut, contrairement à d'autres, donnait des garanties, on va dire, éthiques et de puissance qu'il a toujours eues, qu'il a toujours tenues. Et ce qui est très important concernant le dopage, avec un entourage qui n'est pas de médecin, c'est son frère qui est entraîneur, contrairement à Alaphilippe, par exemple, qui est entouré de médecins. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Alaphilippe est allé dans cette équipe belge, qui ont plein de casseroles, quoi. Et voilà, donc chacun choisit son camp, chacun choisit son entourage, et c'est pour faire des résultats, et les résultats, ce sont les watts qu'il développe sur les ascensions qu'on peut mesurer.
Alors vous, qu'on comprenne bien, hein, Antoine Vaillé, vous constatez la puissance développée par les coureurs, et vous en tirez des conclusions. Vous n'êtes pas dans les coulisses du Tour de France. Et ce que vous nous dites ce matin, donc, c'est qu'il est assez difficile, voire très difficile, de répondre à la question de savoir si le Tour était cette année atteint par des pratiques de dopage.
Il faut quand même arrêter. Quand le Tour, si jamais le Tour de France n'était pas atteint par des pratiques de tricherie, faut quand même arrêter de rigoler là. Voilà, on a dit en 99 qu'il y avait le Tour de renouveau. Armstrong l'a gagné pendant 7 fois consécutivement. On le dit, ça y est, voilà, et on a vu ce qu'il en était pour le plus grand scandale du dopage et de la tricherie dans le sport, on a dit. Donc il faut une bonne vingtaine, voire une trentaine d'années pour changer un petit peu les mentalités. On a toujours des gens qui sont sur le Tour de France et qui encadrent les coureurs, dont des docteurs, hein, qui sont une des plus grandes plaies, en fait, hein, dans l'encadrement.
Mais vous nous dites que Pinot était, selon vous, propre. Il n'y a pas eu de scandale, par ailleurs, de grand scandale de dopage révélé pendant cette grande boucle. Et Pinot s'est accroché, alors il a fini par abandonner, mais il s'est accroché quand même beaucoup. Ça veut dire qu'on se dope peut-être moins, ou en tout cas avec moins d'efficacité, ou en tout cas on essaye de faire un dopage un peu plus raisonné, si on peut dire ça comme ça, Antoine Vaillé.
Tout à fait. Voilà, le dopage maintenant, c'est ce qu'on appelle le micro-dosage, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre du dopage à la louche et de se goinfrer avec des taux d'hématocrite de 60 comme dans les années 90, eh bien c'est des micro-dosages, c'est du micro-dopage, et dans le même temps, On a des coureurs qui ne s'entraînaient pas de manière scientifique. Moi, quand j'étais par exemple chez Festina, j'étais le seul entraîneur, ça paraît complètement fou, d'une équipe professionnelle et embauché en tant que tel et diplômé aussi pour le faire. Maintenant, les entraîneurs, il y en a 3, 4, 5 par équipe.
Hein, voilà. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des médecins et pas d'entraîneurs.
Voilà, il y avait des médecins
spécifiques sur le vélo.
Il y avait des anciens boulangers. Willy Vaught était un ancien boulanger qui était soigneur, masseur, bras droit des médecins. Voilà, et il n'y avait pas d'entraîneur en tant que tel, c'est-à-dire que les coureurs étaient un petit peu livrés à eux-mêmes chez eux. Moi, quand je suis rentré chez Festina, j'ai vu un nombre de coureurs incroyables qui étaient laissés chez eux qui n'avaient aucun contact avec leur équipe, si ce n'est quand ils étaient sur les courses, soit une centaine de jours par an, et puis voilà. Donc voilà, moi je pense que c'est encore à qui profite le crime, je veux dire, du dopage et de la tricherie, c'est au docteur, quoi.
Vous nous dites que c'est un tour pas propre, mais moins sale, on peut dire ça comme ça.
Oui, si vous voulez utiliser cette
avec
image.
Le retour du suspense aussi quand même. Il y a eu effectivement une bataille, on l'a vécu pendant ces 3 semaines, un peu plus intense et un peu plus disputée, quoi.
Oui, mais enfin quand il y avait le dopage, c'était un suspense fantastique, c'était un scénario fantastique. Vous vous rappelez
Armstrong, non, c'était, vous l'avez dit, 7 fois vainqueur, il survolait complètement l'épreuve, quoi.
Oui, bien sûr. Mais à ce moment-là, avec les Ineos avec Sky, moi j'avais écrit dès le 2 juillet qu'ils allaient faire un doublé sur le Tour de France. Hein. Si vous voulez, il y a aucune surprise non plus au niveau du scénario final. Alors c'est vrai que nous, en France, pour le Tour de France, voir des Français briller, ça titille et ça éveille beaucoup de choses. Hein. C'est pareil autour d'Italie, quand on voit des Italiens qui brillent, voilà. Et donc ça donne une recrudescence d'intérêt et de popularité aussi, parce que Alaphilippe joue très bien le jeu. D'ailleurs, je pense qu'il est au contact des gens beaucoup plus que Virenque. Mais par exemple, Alaphilippe, on dit aussi que c'est le nouveau Virenque. Et Virenque, ils sont en relation tous les deux. Et Virenque, c'était quelqu'un qui cristallisait la tricherie aussi. Hein. On l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le patron du Tour, Jean-Marie Leblanc, à l'époque. Et donc voilà, quoi. On va voir un petit peu comment ça va évoluer tout ça.
Vous avez vécu comment ce Tour, vous, Antoine Vaillet, avec un peu de suspense, un peu d'intérêt, ou vous nous dites que l'intérêt que les éditorialistes ont bien voulu y voir, ou les journalistes sportifs, ou le public, c'est largement du théâtre encore.
Il y a pas mal de théâtre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Tour, au niveau de la tricherie, hein, puisqu'on est là pour ce sujet, repose sur la naïveté. Hein. La naïveté, c'est un petit peu le fond de commerce de la tricherie, du dopage. Et faut savoir aussi que on habitue les coureurs, on va parler un petit peu au passé, à fonctionner sur l'hypocrisie et sur le mensonge. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui sont fausses. Il y a des amitiés entre coureurs qui sont pendant le Tour, et puis après, il y en a plus. Et voilà. Mais il y a ce qui est très intéressant, je trouve, sur ce Tour, au travers de la personnalité de Pinot, hein, je pense, et au travers de certains médias, c'est qu'il y a enfin un petit peu de transparence, enfin un petit peu de sincérité. On voit que les larmes sont des vraies larmes, c'est pas des larmes de crocodile, ce sont pas non plus des larmes de déception comme j'en ai connu parce qu'on a été exclu du Tour de France et parce qu'on a été puni. Donc ça fait quelque chose d'humain, voilà.
Isabelle Queval, vous l'avez senti, ce retour de la sincérité. Vous avez noté sans doute que les champions du Tour cette année étaient plus faillibles, peut-être un peu plus humains.
Oui, sans doute, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que disait le sociologue Paul Lyonnais, à savoir que le succès du sport reposait sur 2 facteurs. Le premier, c'était une compétition entre égaux. Ah, et là, effectivement, ça fait réfléchir sur l'inégalité introduite par le dopage. Et d'autre part, que le succès du sport reposait sur le pouvoir d'identification des foules à ces héros, à des héros qui peuvent être éventuellement mythifiés. Or, on retrouve dans ce Tour exactement ces 2 facteurs, à savoir, sans doute, comme le disait Antoine Vaillet, un micro-dopage ou une scientifisation du dopage qui fait que on a davantage peut-être d'incertitudes entre différents sportifs prétendant au titre, et puis ce pouvoir d'identification très fort parce que effectivement il y avait des Français en course, des Français qui pouvaient potentiellement, en tout cas on l'a cru, gagner le Tour de France. Donc là il y a effectivement une résurgence d'un attrait très fort pour ce Tour de France qui, les années précédentes, avait pu sembler un peu mécanisé, avec beaucoup moins d'incertitudes, beaucoup moins de... Ce qui est intéressant, c'est de voir au fond des intérêts contradictoires entre l'intérêt du public qui veut de l'incertitude et puis l'intérêt du sportif de haut niveau qui, lui, veut réduire la glorieuse incertitude du sport à son maximum. Voilà, s'entraîner, automatiser, éventuellement se doper, c'est essayer de réduire au maximum l'incertitude du sport. Le public, lui, veut de l'incertitude. Et du coup, la traite ce Tour de France a été revivifiée d'une certaine façon.
L'identification des foules, effectivement, elle a été là cette année avec une grande ferveur populaire autour des étapes et puis évidemment aussi à la télévision. On peut passer sur le dopage, Isabelle Coval. Pour quelles raisons est-ce que on peut passer sur cette hypocrisie dont parlait tout à l'heure Antoine Vaillé? Parce que le sport et notamment le sport télévisé, il dit beaucoup du collectif, il dit aussi beaucoup de nous. Est-ce que c'est parce que on accepte le dopage à titre individuel? Comment vous voyez les choses?
Bah parce que l'attrait du public pour les héros en général, ceux du Tour de France en particulier, qui sont médiatisés pendant 3 semaines, c'est un attrait qui mêle fascination et répulsion. Voilà, c'est quelque chose qui est très ambivalent. Si le Tour de France était couru à des moyennes de 20 ou 30 km heure, ça n'intéresserait pas le public. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites là-dessus. Donc les gens veulent du spectacle, les gens veulent de l'extraordinaire, ils veulent quelque chose qui évidemment sort de la norme et même du cyclisme ordinaire. Donc l'attrait est ambivalent. Effectivement, il peut y avoir des périodes, des moments, ça a été probablement le cas cette fois-ci, où on serait prêt à fermer les yeux sur la suspicion portant sur les performances parce que voilà le champion est français, parce que il y a de l'incertitude qui est apparue dans la course. C'est très ambivalent, toutes ces réactions-là.
Pourtant, Antoine Vaillé, alors si on fait un point sur les performances moyennes, là, sur la puissance développée, sur la moyenne, la vitesse moyenne du Tour de France, on n'a pas beaucoup augmenté. Ça a plutôt même tendance à stagner.
C'est-à-dire, il y a eu plusieurs ères. Il y a l'ère des années 90 où c'était du délire, parce que je l'ai appelé la période mutante. Après, on a eu la période des miraculeux avec un petit peu de watt en moins. Après, il y a eu la période des suspects, et puis on arrive à un mix entre des suspects et des humains, quoi. Enfin bon, c'est quand même les suspects qui l'emportent, hein, je peux vous le dire. Et le dopage n'est pas éradiqué. Les tricheurs, il y en a qui sont là. Ils côtoient des gens éthiques qui ont envie de faire ça bien. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des gens et des coureurs avec qui je parle et que je côtoie, à qui on dirait tiens, prends ça, tu vas gagner l'étape demain et tu vas prendre 2 minutes d'avance sur tes principaux rivaux. Ils vont dire non. Ils vont pas dire non parce qu'ils ont peur d'être pris au contrôle. Ils vont dire non parce que sincèrement, ils n'en ont pas envie. Et ça, c'est complètement nouveau, quoi. Et donc, en fait, pour ça, les combats qu'on a pu mener de manière relativement acharnée, et moi, si je le mène un petit peu alors que j'ai envie d'écrire de la poésie sur ce Tour de France, ne sont pas vains, quoi. Voilà.
En deux mots, les techniques de dopage aujourd'hui. Alors, on a beaucoup parlé des cétones là sur ce Tour de France. C'est pas vraiment du dopage, c'est plutôt quelque chose qui est autorisé ou toléré, Antoine Vaillé.
Il y a plusieurs pour que ce soit dopant. Il y a plusieurs. Il doit y avoir 2 critères. Parmi 3, dont le critère éthique augmente la performance et puis dangereux au niveau médical, les cétones, enfin je veux dire un bon vieux corticoïde, c'est un des gros problèmes par exemple du dopage, ce sont les corticoïdes. Il y a très peu d'équipes du World Tour qui ont adhéré à une association qui interdit l'usage des corticoïdes, et l'usage des corticoïdes, c'est quelque chose d'ultra puissant, et normalement on a promis à l'Union Cycliste Internationale de les supprimer l'année prochaine ou de faire en sorte qu'ils n'en prennent plus. Ce n'était pas le cas cette année, donc vu les avantages que ça procurait, par exemple, moi je pense que si Thibaut Pinot avait été traité dans une autre équipe qui n'était pas adhérente de ce mouvement pour un cyclisme crédible, certainement que pour soigner sa douleur musculaire, ils auraient trouvé quelque chose pour qu'il tienne, qu'il l'aurait en plus boosté, quoi.
Vous venez d'employer le terme traité. Les low carb, qu'est-ce que c'est, Antoine Vaillé?
Bah, des low carb, c'est vous vous êtes un petit peu enveloppé, vous voyez, et vous pourriez...
Pardon, non, pas du tout.
Non, non, pas du tout. Et donc, les low carb, c'est-à-dire que les carbones, le sucre, hein, c'est ce qu'on utilise pour fournir l'énergie au niveau des muscles. Hein. Ah. Voilà, il y a une dégradation, on va pas des molécules de glycogène, mais si on a plus de sucre au niveau hépatique et au niveau musculaire, les graisses prennent le relais en quelque sorte et fondent en créant des corps cétoniques, si on veut, qui sont là justement pour entretenir le cerveau si jamais on a plus de... Et voilà, donc les low carb, c'est pouvoir s'entraîner par exemple à jeun pendant 1-2 heures, ce que je ne recommande pas, ou 3 heures, et puis réalimenter le muscle et l'organisme en lui redonnant un petit peu de glucides. Donc il y a des techniques d'entraînement, si vous voulez, qui sont associées à des techniques diététiques, voire médicales, et avec des produits.
On accuse ces low carb d'être à l'origine d'une vague de burn-out dans le peloton. Ça vous paraît crédible et de nature à être inquiétant?
Il y a un terrain dépressif, de toute façon, sur les sportifs de haut niveau qui ont un petit grain, quand même. Mmh. Et oui, ça peut être inquiétant, parce que être maigre à ce point-là, pour certains, peut rendre un petit peu dépressif. Hein. Je veux dire, on dit que la nourriture, c'est le début du bonheur, et ne pas se nourrir ou se nourrir comme ça, de manière quasiment artificielle et complètement décalée, en prenant par exemple des produits comme le Morten, qui sont un mélange de cétone et de glucides mélangés à des algues, si vous voulez, c'est pas très réjouissant.
Alors Isabelle Queval, la prise de conscience dont nous parlait il y a quelques instants Antoine Vaillé, vous la ressentez, vous, et comment vous l'expliquez? Il y a un changement chez les sportifs de haut niveau que vous voyez peut-être venir, et notamment chez les cyclistes, mais on peut élargir la discussion maintenant peut-être à d'autres sportifs.
Il y a une prise de conscience. Voilà. Bon, c'est pas quelque chose d'extraordinaire de le dire. Cette prise de conscience, elle est venue après un certain nombre d'affaires très médiatisées, qui ont été pour certaines dramatiques, etc. Bon, cette prise de conscience, elle permet d'une certaine manière de franchir un cap. Et ce cap, c'était celui qui faisait dire il y a quelques années, les sportifs ne sont pas au courant. Bon, on a beaucoup dit que dans certains sports, notamment comme le cyclisme, qui fonctionnait par équipe, qui fonctionnait justement par entraînement d'une certaine manière, certains n'étaient pas au courant. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il est difficile pour des sportifs de haut niveau de dire qu'ils ne sont pas au courant. C'est déjà un cap important, c'est-à-dire cette prise de conscience, effectivement, on va dire oui ou on va dire non pour des raisons qui sont individuelles, qui sont.
Mais qui ont trait à la santé notamment?
Bah, qui peuvent aussi avoir trait à la santé. Il y a quand même beaucoup d'informations. C'est vrai de dire qu'il y a peut-être 20 ans, les sportifs n'étaient pas forcément au courant, n'avaient pas forcément conscience ni de ce qu'ils faisaient, ni de ce qu'ils prenaient, ni des conséquences. Mais on en a beaucoup parlé, ça, justement, après l'affaire Festina, de ces cocktails qui étaient à la fois consommés dans le cadre du sport et de la compétition, mais aussi dans le cadre festif ou dans la vie, ou dans le cadre d'addiction, tout simplement. Bon. Là, il est difficile aujourd'hui, avec toutes ces affaires, toutes ces informations, toutes ces campagnes, on va dire, même si parfois elles sont vaines dans les faits, de dire que les sportifs ne sont pas au courant. Donc il y a une prise de conscience. Voilà. Après, reste le choix individuel. Bon, c'est toujours un peu le choix d'Achille, hein, c'est-à-dire la gloire rapide et avec des risques, plutôt que quelque chose de plus... de plus médiocre et de plus atone. Bon. Ouais. Mais ce choix-là, il demeurera toujours un choix individuel.
Mais ça se fait plus, au nom d'un pays, comme ça a pu se faire avant, un pays de l'Est notamment, et ça se fait plus non plus au nom d'un sponsor qui imposerait un certain nombre de choses.
Voilà, et puis au nom aussi de l'ignorance. Il y a beaucoup de gens dans les années passées, encore un peu plus anciennes, qui ont été dopés à leur insu, pour reprendre une partie de l'expression bien connue de Viringue. Bon. Aujourd'hui, ça paraît un peu plus difficile, même si, effectivement, avec l'omniprésence de la médecine dans le sport de niveau, je pense que c'est encore possible de doper les gens sans qu'ils soient tout à fait au courant de ce qui se passe dans leur corps, mais ça paraît quand même plus difficile.
Après, il y a d'autres techniques d'entraînement, il y a aussi des techniques de pointe au niveau du matériel, mais on va revenir sur tous ces aspects-là après le journal de 8h. Antoine Vaillé, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Isabelle Queval?
Oui, je parlais, Isabelle disait qu'il n'y a plus rien qui se faisait à leur insu. Moi, je suis désolé, il y a encore des pratiques qui se font dans certaines équipes, c'est-à-dire que des coureurs prennent quelquefois des produits à boire pendant la course qui s'appellent, qu'on peut appeler des bombas, hein, les célèbres bombas, et ils ne savent pas réellement ce qu'ils prennent. Et ça, ils l'acceptent tout à fait. Et quand on parlait de choix, il y en a qui ont pris à leur compte la phrase de Kafka, il ne faut pas faire de choix, et eux, ils n'en font pas. Et le choix qu'ils feraient, en tout cas, c'est celui aussi d'avoir un certain goût du risque et d'être excité. Et demain, on verra bien ce que ça donne. Tant que je joue, je gagne. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de grands champions aussi qui ont fait des hold-up, c'est-à-dire qui sont dopés, qui ont triché sciemment, qui ont fait des gros hold-up et qui, grâce à ces hold-up, ont gagné. Le dopage et la tricherie paient au bout du compte, même si certains perdent des plumes et si certains restent sur le bord de la route. Le dopage paie. Avec le dopage, avec des hold-up, on devient chroniqueur dans des chaînes de télévision, on devient...
On se fait un nom, quoi, c'est ça.
Voilà, on se fait un nom terrible.
Sur lequel, hein, après, on va pouvoir faire
fructifier.
Le hold-up
fonctionne.
Merci, Antoine Vaillet, vous restez avec nous. Isabelle Queval également, on poursuit cette discussion.
France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Et nous retrouvons nos invités pour évoquer et commenter les derniers résultats sportifs, en tout cas les dernières performances, et questionner cette figure du super-héros. Isabelle Queval est avec nous au téléphone, philosophe et enseignante-chercheuse à l'Institut National Supérieur de Formation et de Recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et des enseignements adaptés. Et puis Antoine Vaillet, ancien entraîneur de l'équipe Festina aujourd'hui, professeur de PS et chroniqueur pour Le Monde. On disait tout à l'heure que peu à peu les médecins avaient tendance à remplacer les entraîneurs dans l'entourage des coureurs cyclistes, mais on peut élargir cette discussion à l'ensemble du monde sportif. Isabelle Queval, vous nous disiez qu'on en était toujours à la recherche de performances pour briller, pour exister. Vous expliquez dans vos ouvrages que l'effacement des grandes transcendances à partir de la deuxième partie du XXe siècle, les transcendances religieuses et politiques, expliquaient que on se reporte finalement sur les performances du corps. C'est une nouvelle religion que cette religion de la performance.
D'une certaine façon, oui. Il y a un investissement sur soi et il y a un investissement sur la santé notamment et évidemment donc un investissement sur le corps puisqu'on a d'une certaine manière repoussé les ailleurs ou les au-delà qui pouvaient autrefois structurer les sociétés, structurer les collectifs. Aujourd'hui, on est dans une ère plutôt individualiste où les transcendances, si on peut encore appeler ça comme ça, se trouvent à partir de soi et dans une espèce de glorification de la performance individuelle, de l'optimisation de la performance intellectuelle, mais surtout physique, d'embellissement du corps, d'entretien du corps. Ça, c'est effectivement tout à fait prégnant.
Et tout ça entraîne, par une chaîne de conséquences, l'engouement qu'on constate depuis quelques années déjà, et même depuis assez longtemps, pour les salles de sport et pour l'entraînement individuel, cette culte aussi là du corps.
C'est l'idée, voire le fantasme, qu'on serait l'auteur de soi-même, le producteur de soi-même, puisqu'on a aujourd'hui beaucoup plus de moyens médicaux et autres pour s'entretenir et pour être en bonne santé. Eh bien, ces moyens amènent à penser qu'on puisse être auteur de soi-même, qu'on puisse faire du corps une œuvre indéfiniment perfectible, et ce qui entraîne aussi d'ailleurs responsabilité et culpabilité aussi au regard de sa santé, de son apparence, de sa forme. Mais cet engouement, c'est aussi un engouement très occidental d'ailleurs pour la maîtrise. La maîtrise et le contrôle de sa vie, être sous contrôle. Et d'ailleurs, les objets connectés témoignent de cet engouement, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir contrôler la mesure chiffrée de ce qu'on est capable de faire chaque jour, de la performance quotidienne, même si elle est tout à fait mineure, hein, à titre individuel, elle a du sens, faire mieux que la veille, pouvoir contrôler le nombre de pas, le battement cardiaque, etc. Donc cet engouement-là, c'est un engouement pour la construction de soi et une construction de soi sous contrôle.
Il y a une quantification aussi sur laquelle on va revenir, hein, Isabelle Queval. On veut une amélioration humaine aussi, une amélioration qui devrait pouvoir être linéaire, qu'il n'y ait finalement plus de limites.
Alors, cette idée du sans limite, elle est effectivement une des marques de la modernité depuis le 18e siècle. Aujourd'hui, elle est révisée d'une certaine manière à différents points de vue, point de vue écologique et même le point de vue du corps, tout simplement, le point de vue biologique. Mais c'est un fantasme de effectivement d'amélioration, et aujourd'hui cette amélioration pourrait passer par une transformation, notamment une transformation du corps, par différents moyens qu'on possède aujourd'hui, qui sont génétiques, qui peuvent être aussi prothétiques, et on voit d'ailleurs dans le sport des sportifs équipés de prothèses qui produisent de telles performances que, évidemment, ça fait déjà réfléchir à la possibilité de sportifs bioniques d'une certaine façon dans le futur, c'est-à-dire cette transformation du corps par la technique, par la technologie, qui pourrait prendre aussi cette voie-là.
Mais là, on sortirait peut-être un peu du champ du sport. Est-ce que tout ça donne un point de départ à ce qu'on appelle le transhumanisme, Isabelle Queval?
Le transhumanisme s'appuie sur ces données-là et puis extrapole non pas un futur de l'humanité, mais une post-humanité, hein, d'une certaine manière, sur la base de données scientifiques qui sont plus ou moins contestables aujourd'hui. C'est l'idée d'une rupture, le transhumanisme en réalité, hein. C'est pas une amélioration de l'humain tout à fait dans le sens de ce que la philosophie des Lumières avait pu imaginer. C'est une rupture avec cette dynamique-là pour pouvoir imaginer et construire un post-humain.
Alors, que se passe-t-il dans le psychisme des spectateurs quand ils attendent l'air corps? Est-ce qu'ils attendent l'air corps comme des bonnes nouvelles? On peut citer, là, il y a eu le mondial de natation ces derniers jours. Je crois que 9 records mondiaux sont tombés. On attend l'air corps comme des bonnes nouvelles, comme des éléments qui nous disent on peut encore aller plus vite, plus loin, plus fort, pour reprendre la célèbre...
Je disais à l'instant que au fond, le spectateur est animé par fascination et répulsion. C'est-à-dire qu'à la fois on veut de l'extraordinaire, mais on est aussi très prompt à critiquer, justement, et à soupçonner, d'ailleurs, parfois à juste titre, le caractère, on va dire, tout à fait légal des performances. Donc, on est toujours émerveillé d'une certaine façon par ces records. Et puis, l'ambiance fait que, évidemment, depuis maintenant plusieurs décennies, assez vite, la suspicion vient. Elle vient sur la natation comme sur d'autres sports. Hein. Elle vient au travers de ce sportif chinois là qui a cassé son éprouvette d'analyse à coups de marteau. Bon, c'est toujours ambivalent, encore une fois. On attend le record. On peine à imaginer un sport de haut niveau qui soit sans record. Et pourtant, c'est quand même une perspective à envisager que le sport de haut niveau soit ramené à ce qu'il a pu être peut-être il y a très longtemps dans la Grèce antique, c'est-à-dire essentiellement une compétition avec des vainqueurs, sans forcément s'attendre à ce que des records du monde soient battus à chaque épreuve, ce qui est quand même de plus en plus difficile. Les études qui ont été menées par le laboratoire de l'IRMES à l'INSEP montrent bien que physiologiquement, bon, le sport ne se réduit pas à sa physiologie, mais physiologiquement, il y a quand même un certain nombre de sports qui arrivent à leur limite, en tout cas à celle du corps. Voilà. Ouais. Alors après, le sport est aussi autre chose, c'est-à-dire que c'est un ensemble de techniques, de technologies, on est toujours dans l'amélioration médicale notamment, etc. Donc ça ajoute à la physiologie simple, on va dire. Mais néanmoins, c'est quand même de plus en plus difficile de battre des records du monde.
Antoine Vaillé.
Oui, au niveau des records. Alors, il y a une petite nouveauté, par exemple, sur le Tour d'Espagne. Sans doute que les points qui vont être attribués dans les ascensions aux grimpeurs, en fait, vous savez, il y a ce maillot à poids qui est le maillot du meilleur grimpeur. Eh bien, maintenant, comme les athlètes sont connectés, ont des petites puces, on va donner les points à celui qui fait la meilleure ascension. C'est-à-dire qu'on pourra finir 13e de l'ascension, mais en étant parti d'un peu plus loin. Et voilà, donc cette histoire de record, effectivement, est un... Et ça vient aussi des battleurs, hein, des organisateurs du spectacle, hein, qui disent oui, les records, c'est bien, et les journalistes, oui, on va parler de record, à défaut de parler de l'homme, je n'en sais rien, mais Moi, ça me paraîtrait pas aberrant de voir aux Jeux Olympiques une course de 100 mètres sans qu'on affiche les temps. Hein. Ça pourrait très bien se faire et ça pourrait être pas mal aussi. Donc il y a des idées à creuser par rapport à cette idée. Le spectacle qui est un sport, si c'est un sport, c'est battre l'autre. Hein. C'est la compétition qui veut ça. Et voilà, et ça pourrait être tout aussi spectaculaire. Je pense que il y a des idées, il y a des idées à prendre et à prendre à bras le corps, comme le dopage et la tricherie, on peut l'éradiquer. Hein. C'est juste une question de volonté.
Ouais, Isabelle Queval faisait référence tout à l'heure aux agones de la Grèce antique. Selon vous, Antoine Vaillé, ce sont des réflexions qui sont menées dans le monde du sport, ne plus chronométrer les courses, mais simplement établir un podium.
Les seules réflexions qui sont menées, en tout cas, je veux parler du cyclisme, c'est les réflexions qui mènent les organisateurs, pour la plupart, à gagner du pognon. C'est tout. C'est comment est-ce qu'on peut faire plus d'argent à court terme par quel mode de communication, par quel mode de spectacle, par quel mode de transformation du parcours, comment allons-nous faire pour capter plus d'audience et pour gagner plus d'argent? C'est quand même ça qui mène le bal. Les réflexions sont pas des réflexions sur la prévention. Si les organisateurs faisaient leur boulot au niveau de la prévention, je peux vous dire que c'est déjà pas mal, mais ce serait quand même beaucoup mieux. Il y aurait plus de tricheurs. Mais c'est pas l'intérêt. L'intérêt du Tour de France et du sport spectacle, c'est de gagner de l'argent. Mais là où ils ont tort, c'est que en fournissant non pas des gladiateurs, on va dire des gladiateurs, mais des gladiateurs et le public saurait qu'ils ne trichent pas, en fournissant des gladiateurs éthiques, on va dire, eh bien ils auraient des gens comme moi, par exemple, on pourrait dire bah c'est bon, ils se dopent pas, c'est super, voilà, c'est et ils gagneraient plus d'argent. Mais c'est pas ça qui les préoccupe.
Vous êtes un peu enveloppé aussi, Antoine Veille.
Ah bah moi c'est
pour vous rendre la monnaie de votre pièce.
C'est par choix.
Pour tout à l'heure. Tout ça résonne avec ce que disait Isabelle Queval il y a un instant. Place dans un contexte de grande concurrence entre les sportifs et tout ça dans un monde très libéral, très mercantile. C'est ce que vient d'évoquer Antoine Vaillé. C'est le libéral qui joue sur nos corps aussi, Isabelle Queval.
Oui, alors c'est des représentations qui sont propres aussi aux différentes sociétés. C'est sûr que dans notre société aujourd'hui, la valorisation du corps est importante. Elle est importante aussi dans le monde du travail, dans les entretiens d'embauche, dans l'apparence qu'on peut proposer aux autres, dans l'image de soi qu'on véhicule sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on véhicule beaucoup l'image de soi justement à l'effort, hein, l'effort dans la salle de fitness, en train de s'entretenir et de participer activement à cette production de soi. La concurrence dans le sport, cette concurrence mondialisée, elle bloque beaucoup des réflexions éthiques qu'on pourrait avoir, pas seulement sur le dopage. Elle bloque la réflexion éthique, par exemple, sur la précocité des athlètes, l'exploitation d'enfants athlètes, partout dans le monde d'ailleurs, y compris dans les pays démocratiques. On a cette concurrence qui, au fond, bloque la réflexion éthique, bloque ce qui pourrait être un droit de l'enfant sportif, qui n'existe pas dans le monde du sport, alors qu'il existe dans le monde du cinéma ou de la publicité. Et on voit bien que si un pays, une fédération avance dans ce domaine-là, domaine éthique, commence à poser des limites, etc., très vite, les athlètes ne seront plus compétitifs. Et donc la limite, elle est là. À partir d'un moment où un pays focalise sur le nombre de médailles qu'il obtiendra dans les prochains Jeux Olympiques, dans les prochains championnats du monde, et en fait le point cardinal de sa politique sportive et de sa représentation sportive au niveau national, les choses sont biaisées. Voilà, c'est très difficile après d'introduire d'autres raisonnements, et notamment des raisonnements limitatifs. Bon. Alors après, il y a quand même des fédérations qui font des pas. Je pense notamment sur le plan de la mixité, il y a un certain nombre de sports qui ont introduit des épreuves mixtes qui n'existaient pas auparavant. Je pense au ski, je pense à la natation. Je crois que ça va dans le bon sens. Certainement, ça participe du spectacle, mais c'est aussi un signal envoyé à la société, c'est-à-dire sortir un peu de ces conditions totalement binaires qui sont celles du sport concurrentiel, à savoir homme, femme, vainqueur, perdant, handicapé, valide, etc., des choses qui sont quand même assez ancienne hein, dans leur fonctionnement. Donc là, il y a des signaux sociétaux qui sont avancés. Mais par rapport à cet enjeu de spectacle, d'économie du sport et géopolitique aussi, hein, des grandes compétitions, les avancées éthiques sont forcément se heurtent, elles sont bloquées par ces considérations-là. Et donc, d'une certaine manière, les choses sont... sont faussées, sont ambivalentes. On revendique d'un côté des avancées éthiques et puis de l'autre, les intérêts l'emportent.
Voilà. Merci beaucoup Isabelle Queval pour cette réflexion. Philosophe et enseignante, je rappelle le titre d'un de vos derniers ouvrages, S'accomplir ou se dépasser, essai sur le sport contemporain, publié chez Gallimard dans une édition augmentée en 2016. Merci aussi à vous Antoine Vaillet, votre analyse complète du Tour de France 2019, c'est la mi-journée sur Le Monde.
Voilà, et on saura si ces mythes nous abusent, comme le dit la contrepétrie.
Ah, merci.